et bienvenue dans Histoire en Onde. Ici Marie-France Mbomé-Congo pour vous présenter votre émission historique qui nous amène tous les mois à découvrir un nouveau sujet. Aujourd'hui, nous parlerons de l'automobile, un objet de révolution scientifique, de curiosité et de luxe qui aujourd'hui berce notre quotidien. Pour ce second épisode, intitulé « De 0 à 100 en un siècle et demi », je serai accompagnée de Cédric Lavaillard. Bonjour Cédric.
Bonjour Marie-France.
Avec qui nous parlerons de l'évolution de l'automobile, de ses origines à nos jours. Ici, nous aborderons aussi les grands noms qui ont marqué ce domaine, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Ok. Donc je vais te poser la première question. Qu'en est véritablement l'automobile, Cédric?
Eh bien, l'automobile, comme on la connaît, elle naît à la fin du 19e siècle. Mais le terme en lui-même de voiture, lui, il a déjà plus de 1000 ans.
Ah.
On peut remonter même à l'invention de la roue, quelques 5000 ans en arrière, d'où découlent ensuite les chars de guerre, les carrioles, calèches et autres transports qui, à l'époque, donc, étaient tirés par des chevaux. Et c'est que vers 1860 qu'on commence à parler d'automobile, donc littéralement qui avance tout seul.
Du coup, quelle a été la toute première automobile?
Alors, on a eu en France un premier véhicule motorisé, le fardier de Cugnot, inventé en 1770, qui fonctionnait à la vapeur.
D'accord.
Mais déjà au premier test, le véhicule finit dans un mur.
Aïe.
Et il s'avère particulièrement lent et très difficile à manœuvrer. Hmm. Et même avec toutes les autres tentatives qui suivront dans les 100 années qui viennent, ce qu'on appelle la première automobile, ça arrive qu'en 1886. Et c'est un produit allemand. Donc la Benz Patent Motorwagen de Carl Benz et Gottlieb Daimler, qui seront d'ailleurs à l'origine de Mercedes-Benz, que tout le monde connaît aujourd'hui, je suppose. Au départ, d'ailleurs, c'est un véhicule à trois roues, motorisé par un moteur 2 cylindres, qui peine à atteindre les 14 km/h. Rien de fou jusque-là, mais c'est déjà un énorme bond en avant pour l'époque, puisque ça fonctionne, mine de rien. Il en fallait peu, certes, mais ça pose les bases pour les innovations qui arrivent toujours plus rapidement, les unes après les autres.
Bon, de nos jours, on sait tous ce qu'est une voiture, hein, je présume. Cela fait partie de nos vies quotidiennes. Mais toutefois, à l'époque, il s'agissait d'un événement nouveau. Je pourrais même dire que c'était une véritable révolution. Et donc, la création de cette première automobile a-t-elle connu des succès? A-t-elle abouti à commercialiser davantage d'autres modèles de voitures?
Alors, oui, mais pas de suite.
D'accord.
Il faut encore attendre bien 30 ans pour que l'industrie automobile naisse vraiment.
D'accord.
D'autant plus qu'à cette époque, les voitures sont plus ou moins vendues en kit, en fait. On achète d'abord un châssis avec un moteur, et on l'amène chez le carrossier, voire le menuisier, puisque les premières étaient en bois, les premières carrosseries étaient en bois.
En bois?
Donc pour habiller la voiture. Donc c'est un processus long, c'est cher, et ça en fait très vite un produit de luxe. D'ailleurs, certaines sont déjà électriques, hein, avec un petit moteur alimenté par une batterie au plomb, que l'on rechargeait la nuit. Les premiers taxis sont majoritairement électriques, puisque les trajets étaient relativement courts, en tout cas avant 1910.
Oh,
et plus tard, c'est le moteur diesel donc, qui se popularise à partir des années 10-20, qui augmente grandement les performances et les rendements des voitures. Et Henry Ford, avec le travail à la chaîne, améliore encore plus la vitesse de production de voitures, et c'est là qu'on voit naître les premières marques automobiles, dont la plupart existent encore aujourd'hui d'ailleurs.
Du coup, tu as parlé de performance tout à l'heure. Donc, qui dit performance dit forcément course. Donc, quelles sont les marques qui ont marqué au développement des voitures de course de manière générale?
Alors, il y en a plusieurs, mais les principales sont plus ou moins les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. Bugatti, Bentley, Ferrari, BMW, Porsche, Mercedes, Peugeot, Alfa Romeo, etc., etc. Et les Anglais et les Français, d'ailleurs, au départ, étaient les plus férus de vitesse. Les premiers records arrivent dès 1890. Les 100 km/h sont dépassés en 1899 par une voiture qui s'appelle la Jamais Contente. J'adore ce nom. Les 300 km/h, pas longtemps après, puisqu'ils sont dépassés en 1927. Et les 500 km/h en 1937. Et toujours avec un moteur à essence. Le moteur jet, donc des avions de chasse, n'arrive qu'après la Seconde Guerre mondiale. Dans les premières sportives, on peut citer Dodge et Bugatti, qui enchaînent les 8 cylindres de plus de 300 chevaux entre 1920 et 1940. Leur style aérodynamique qu'on leur connaît naît surtout dans les années 30 avec ce qu'on appelle le Streamline. Je vous invite à aller voir une image de la Peugeot 402 Streamline de 1930, qui est absolument sublime, selon moi en tout cas. Et la course automobile suit d'ailleurs la même lancée, hein, avec la création des 24 heures du Mans en 1923, les 500 miles d'Indianapolis aux États-Unis en 1916. Bref, c'est les années folles, c'est la vitesse, le style, le luxe, avant la dégringolade de 39-45.
La dégringolade de 39-45, je présume que tu fais référence à la Seconde Guerre mondiale, une période assez sombre d'ailleurs. En quoi est-ce une dégringolade exactement ?
Eh bien, hormis aux États-Unis, la guerre fait très mal aux industries automobiles. Même s'il y a plein de chars et de camions qui sont produits, donc les usines sont réquisitionnées pour l'armement d'abord. Certaines sont sabotées, je pense notamment à Peugeot qui dynamite une de ses chaînes de production en région parisienne pendant l'occupation. D'autres ont été malheureusement plus coopératives avec le régime nazi, puisque Citroën, Porsche et BMW, par exemple, vont produire des armes.
D'accord.
Avec les dégâts subis par les belligérants, plus le coût des réparations, plus la ruine des populations, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça fait que l'automobile dans les années 40, c'est à la portée de personne, et c'est absolument pas la priorité, elle est clairement ailleurs. Pourtant, dès les années 50, pas longtemps après, c'est en partie l'automobile qui relance la machine industrielle. Et par extension, l'économie nationale, le pouvoir d'achat, etc. Avec des petites voitures pas chères, qui consomment peu, mais qui font quand même tourner les usines et surtout leur main-d'œuvre. Volkswagen, bon, qui forcément a une très mauvaise image à ce moment-là, puisque créé expressément par le parti nazi, sort la coccinelle. Citroën sort la 2 chevaux. La Fiat 500 débarque en Italie aussi. Alors, de l'autre côté du monde, le Japon se tourne plutôt vers la moto en masse, dû à son isolement et son manque de ressources. Et en fait, tous ces modèles, avec plus ou moins de succès, redonnent du poil de la bête à l'automobile, qui va connaître surtout un nouveau boom entre 1960 et 1990.
Donc là, on a vu les désastres causés par la Seconde Guerre mondiale, notamment le fait que des usines ont été réquisitionnées afin de faire des fusils, des chars, des obus, etc. Mais malgré cela, l'automobile arrive quand même à se relever. Quand même, c'est quand même exceptionnel, surtout à cette époque-là. Hein. Mais est-ce qu'on arrive concrètement à l'automobile qu'on connaît aujourd'hui, Cédric ?
Alors, on y est presque, on n'y est pas encore, mais on s'en rapproche de plus en plus tout au long des 30 Glorieuses, donc de 1960 à 1980.
D'accord.
On commence à ce moment-là à innover en matière, bien évidemment, de motorisation. Les moteurs sont nécessairement meilleurs qu'avant. Mais surtout en matière de sécurité. La ceinture de sécurité commence à devenir obligatoire. Elle était en option depuis les années 50 et elle était très chère.
Ah bah oui, forcément.
La carrosserie, donc les matériaux de la carrosserie changent pour qu'elle se ramollisse pour mieux amortir les chocs.
D'accord.
Les clignotants débarquent aussi et remplacent la flèche de direction, qui était vraiment littéralement un levier avec une grosse flèche jaune qu'on tournait dans un sens ou dans l'autre.
Ah ouais.
Et le code de la route se resserre pour diminuer les risques. D'un autre côté, la naissance des grands groupes, donc General Motors, PSA, Volkswagen, qui explose littéralement pendant ces années-là, donne lieu, donc avec la course au profit, la concurrence, etc., ça donne lieu à pas mal d'écarts.
D'accord.
Donc entre Ford aux États-Unis qui sort des modèles dont le réservoir prend feu spontanément, la Ford Pinto, qui mine de rien est une voiture toute mignonne mais qui a tué un nombre incalculable de personnes, et derrière en Europe, les Ferrari dont les voitures font peur à tout le monde avec les V8 toujours plus puissants, mais l'automobile peine encore à avoir une image universelle de sûreté. La course automobile n'aide pas d'ailleurs au départ à cette image, alors que la plupart des inventions mécaniques qui servent aussi à la sécurité proviennent de la compétition.
Ah, c'est assez paradoxal, mine de rien. Donc ici, on n'arrive pas certes à l'automobile telle qu'on connaît aujourd'hui, mais on met davantage l'accent sur la sécurité et notamment sur le développement des ceintures de sécurité ou encore les flèches de direction, maintenant devenues des clignotants, comme tu viens de l'expliquer tout à l'heure. Pour ce qui est de la course automobile, elle connaît une effervescence majeure, alors que c'est quand même un sport dangereux, il faut se dire la vérité, surtout à l'époque-là. Du coup, comment ça se passe à ce niveau-là ?
Alors, ça se passe très mal dès le départ. Et c'est même ça qui va aider la course automobile, paradoxalement, à être si populaire pendant l'après-guerre jusqu'aux années 90-2000 environ. En 1955 déjà, une Mercedes, avec un Français au volant, s'envole littéralement dans les tribunes du Mans
aïe, aïe, aïe.
À 90 km/h.
Oh
Bilan 80 morts, 125 blessés, et Mercedes qui se retire de la compétition pendant près de 50 ans, après lesquels ils referont deux décollages spectaculaires avec la SLK d'ailleurs dans les années 90, donc joyeux hasard, joyeux c'est peut-être pas le mot,
ouais, c'est pas trop le mot,
mais au moins sur les deux suivants c'était dans la ligne droite, il n'y avait personne autour et il n'y a eu aucun blessé.
Mais est-ce que ce genre de drame a permis des améliorations afin de justement diminuer ces risques?
Alors en Formule 1 et en endurance, oui.
D'accord.
Avec des moteurs, des systèmes mécaniques et, électriques plus tard, de plus en plus efficaces, de plus en plus performants. Les circuits aussi qui se dotent donc de moyens de sécurité, de rambards, de vibreurs, de bacs à sable pour absorber les chocs et empêcher les gros accidents. En rallye, c'est une autre histoire, mais en réalité, des événements aussi triviaux que les freins à disque, qui sont encore les seuls freins utilisés aujourd'hui, hein. À l'époque, c'était donc des freins à tambour, donc deux arcs de cercle en métal qui venaient serrer la roue de chaque côté, et c'est Jaguar, dans les années 60, qui crée ces freins à disque.
D'accord.
Et qui fout une peur bleue à tout le monde, parce que c'est beaucoup plus efficace un frein à disque.
D'accord.
Donc ils peuvent freiner beaucoup plus tard.
Ah.
Donc tous ceux qui avaient des freins à tambour qui essayaient de les suivre derrière, ils n'arrivaient pas à les tenir les virages. Donc ils ont failli causer un nombre incalculable d'accidents, puisque personne ne pouvait en fait avoir le mordant qu'ils ont au freinage, et donc par extension en fait la performance en course. Et même des objets comme l'ABS, donc l'aide au freinage, qui arrive plus tard, l'ESP, l'aide à la traction, à l'accélération, qui permettait à leur introduction en course de faire ce qu'aucun autre ne pouvait faire sans ces éléments-là. En F1 comme en rallye, ou même dans n'importe quelle course, les travaux sur les moteurs et l'aérodynamisme nous aident aujourd'hui encore à moins consommer, puisqu'on a moins de résistance à l'air.
Ouais.
Mais pour cela, on est passé par des prototypes de malades. Dans les années 80, le rallye, c'est le sport à suivre, le groupe B le plus connu, la catégorie illimitée. Les voitures, ils font entre 600 et 1300 chevaux. Elles sont très légères, je pense à la Suzuki Escudo Pikes Peak qui fait 1250 chevaux, je crois, pour un peu moins de 900 kilos. Voilà, en comparaison, la Bugatti Veyron, c'est un poids puissance de 1, donc c'est 1000 chevaux pour 1000 kilos. Donc c'est un meilleur poids puissance qu'une Bugatti Veyron.
Ah bah ça c'est clair, oh là là.
Et c'est des petits cylindrés, c'est des moteurs de 2,5 litres, c'est la taille d'un diesel de Scénic en gros, enfin en termes de dimension.
D'accord,
au revoir. Ça se trouve facilement, des images de Harry Vatanen et de Michel Mouton, la fameuse femme pilote, qui fonce à 200 km/h au volant de son Audi Quattro, donc 4 roues motrices, autre invention de la course.
La Superwoman, c'est elle.
Exactement, je crois l'une des seules femmes pilotes mythiques, en tout cas de ces années-là. Avec en plus qui fonce au milieu des spectateurs qui sont tous en plein milieu de la piste, qui s'écartent au dernier moment. Bref, c'est la reine de gladiateurs. Et même en dehors de la course, y a des prototypes qui sont fous. La DeLorean, elle est littéralement dans le même matériau que les fourchettes qu'on utilise aujourd'hui. Elle est en acier inoxydable. Il y a eu la Pontiac Turbine avec une vraie turbine d'avion de chasse derrière. Il y a eu Exam, donc la marque qui fait aujourd'hui les voitures sans permis, qui développe la Megatrack qui fait 500 chevaux pour 2 tonnes 9.
C'est improbable.
Donc ouais, c'est année folle épisode 2 en fait, les années 80.
Ah mais vraiment.
Et c'est à partir de 90-2000 où là, petite accalmie avec des voitures plus modestes, donc la 205, 6, 7 et 8 aujourd'hui, la Fiat 500 qui revient aussi, etc., qui sont tout de suite beaucoup plus raisonnables.
Ah oui, mais c'est fou quand même l'évolution qu'a subi ce domaine de l'automobile, franchement. Et ça continue toujours d'évoluer, mine de rien, puisque maintenant on assiste à l'émergence des voitures électriques ou encore les voitures hybrides.
Oui, qui font leur grand retour sur le marché, exactement.
C'est vraiment, c'est splendide. Sur ce, c'est la fin de ce second épisode d'Histoire. Merci à toi Cédric pour avoir répondu à toutes nos questions.
Merci à vous.
C'était un plaisir vraiment, c'était un régal même. Quant à nous, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, l'histoire c'est vieux, c'est fin et ça se mange sans fin. Allez, ciao ciao.